Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Auditeurice de Nantes ou d'ailleurs, bonjour. Bienvenue sur la planète de la Ligue des droits des humains, section Nantes, autrement dit la LDH nantaise. Bienvenue au bar Personne, le bar où se mêlent saveurs, cultures, toutes les cultures, et aujourd'hui tout particulièrement les droits des humains. Au bar Personne, ne loupez pas le jeudi 12 février les heures sup de Juliette. Juliette restera en cuisine toute la soirée pour la joie des gourmands et des gourmandes. Par ailleurs, le mois dernier, nous avons parlé du contrôle des forces de police. Nous avons donc abordé, entre autres, le procès du CRS accusé d'avoir attenté à la vie d'Aboubacar Fofana. Eh bien, le CRS a été reconnu coupable du décès d'Aboubacar Fofana et écroué dans la foulée. Et nous, aujourd'hui, que va-t-on faire? Eh bien, nous, aujourd'hui, nous allons parler de la Palestine. Et pour le faire bien, nous sommes en compagnie d'Alexis, coprésident de l'AFPS 44. Alexis, bonjour.
Bonsoir.
Nous sommes aussi en présence de Barbara, membre de la Commission nationale Palestine pour la LDH. Mais qu'est-ce que je dis en présence? Pas du tout, puisque Barbara nous a prêté sa voix il y a quelques jours et nous en entendrons les enregistrements. Nous sommes, comme à chaque fois et heureusement, avec Nathalène.
Bonsoir.
Elodie.
Bonsoir.
Franz.
Bonsoir.
Et Emmanuel. Bonjour. Tout le monde est prêt?
Oui.
Oui, alors c'est parti. Elodie, c'est à toi.
Alors, quand j'ai vu Barbara, je lui ai posé donc cette première question. Un accord de paix a été signé le 10 octobre 2025 entre Israël et les États-Unis. Où en est-on?
J'emploierai déjà pas le mot paix, mais il y a quand même un accord de cessez-le-feu qui a été mis en place, mais entre eux, Israël et les États-Unis. C'est-à-dire qu'Israël a arrêté de bombarder la bande de Gaza sous la pression des États-Unis. Est-ce que ça constitue un vrai cessez-le-feu? Est-ce que ça constitue encore plus les bases d'un accord de paix? Non. On l'a dénoncé immédiatement, nous à la Ligue des droits de l'homme, avec de nombreuses organisations internationales. Évidemment que c'est pas un accord de paix et nous en sommes très inquiets.
On parle de cessez-le-feu, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la guerre?
Pas du tout, pas du tout, parce que aujourd'hui le peuple de Gaza, pour ne pas les appeler les Gazaouis, ce sont bien des Palestiniens qui vivent à Gaza. Ils sont 2 300 000. Ils sont dans une situation humanitaire catastrophique. Ils subissent tous les jours la pression de l'armée israélienne qui n'arrête pas de déplacer ce qu'ils ont appelé la ligne jaune, où ils avaient pris au départ 52% du territoire. Et aujourd'hui, c'est encore plus parce que la ligne n'arrête pas d'avancer. Le peuple qui vit là vit dans des conditions que personne ne peut supporter. Ils sont sous des tentes dans des conditions météorologiques malheureusement déplorables aussi. Israël refuse de faire entrer les camions humanitaires. Donc ils sont en souffrance alimentaire et très en danger en permanence parce que les soldats israéliens tirent à vue sur des enfants, sur des êtres humains qui peuvent passer dans la rue et sans le savoir dépasser la ligne de démarcation. Donc c'est une guerre qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que aujourd'hui le peuple de Gaza ne reçoit plus les bombes, n'est plus dans la situation où il était avant ce qu'on a appelé le cessez-le-feu, mais continue d'être sous la pression guerrière d'Israël.
Et où en est-on au niveau de la famine qui sévit à Gaza?
Les camions qui devaient rentrer, normalement, il devrait y avoir, je crois, 600 camions par jour qui rentrent, et il y en a un dixième simplement qui rentre. C'est pas suffisant pour nourrir toute la population, donc tout est très 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 cher, les produits sont très chers. On essaye, on en parlera tout à l'heure, d'aider au maximum, mais même les associations humanitaires ne peuvent plus rentrer dans Gaza. Donc aujourd'hui, la population souffre pour beaucoup de malnutrition, de toute façon, et certains de famine. Quand on rajoute le froid, je crois qu'on est rendu à 45 bébés qui sont morts de froid cet hiver.
Et on parle de Gaza, mais Parlons aussi de la Cisjordanie. Comment ça se passe en ce moment sur le terrain ?
Alors la Cisjordanie est donc dans la globalité victime d'apartheid. Quand on dit apartheid, ça veut dire que les droits des Palestiniens ne sont pas respectés dans leur droit à circuler librement, à accéder aux services minimum d'eau, d'électricité. Ce sont des gens qui sont privés de tout. Et en plus, il y a la colonisation. Donc la colonisation, ça veut dire qu'il y a des collines entières qui sont prises par des jeunes ou des gens qui mettent des postes avancés, on appelle ça des postes avancés, et ce sont des bungalows qui sont installés, et puis petit à petit les bungalows se transforment en construction en dur, et puis ce sont des villages, et puis ce sont des villes qui se construisent. Et Israël amène ce qu'il faut au niveau électricité et au niveau ouvre des routes de façon à créer des espaces de vie qui sont interdits forcément aux Palestiniens. Les colons, quand ils ne sont pas encore reconnus en tant que colonie, ont tous les droits. Maintenant, ils sont armés par Smotrich. Smotrich leur a autorisé donc, l'armement des colons. Ils sont armés et ils terrorisent la population, les populations civiles. À savoir que, par exemple, les Bédouins de la vallée du Jourdain, les Bédouins dans le désert du Negev, ou même dans les environs de Jérusalem, autour de Bethléem, sont attaqués en permanence par les colons. Leur bétail est volé, les récoltes sont détruites. Je voyais encore cet après-midi mettre le feu dans les stocks de nourriture pour les animaux. Mais aussi, ils agressent les paysans, les bédouins. Ils leur font peur, ils viennent avec des bâtons, ils viennent avec des cailloux. Ils détruisent les maisons, ils rentrent chez les gens, ils les terrorisent. Ce qui fait que à Massafer Yatta aujourd'hui, Massafer Yatta c'est dans le désert du Negev, il y a des familles entières qui ont résisté tout ce qu'elles ont pu jusqu'à maintenant, mais ils ont été obligés de partir parce qu'ils ne peuvent plus tenir, donc ils quittent le village pour partir, ils ne savent pas où d'ailleurs. Là pour l'instant cette famille va partir sur Jéricho, mais ils ne savent pas s'ils vont être accueillis, s'ils vont avoir le droit, parce qu'après ils vont se retrouver en zone C, et en zone C ils n'ont pas le droit de résider, donc ils ne savent pas où aller.
Alexis, toutes ces informations que tu donnes, toi, tu les obtiens où ? Et après, éventuellement, est-ce qu'il est possible pour tout à chacun, chacune, de se renseigner de cette façon-là ?
Alors, c'est assez difficile parce que les renseignements qu'on a, nous, on les reçoit directement par Al Jazeera ou par des témoins qu'on a, nous, sur place, qui nous envoient des informations. Alors, tous les jours, nous, on reçoit un certain nombre d'informations. Ce sont des vidéos, ce sont des témoignages. Vous savez que les journalistes, là-bas, ils sont persona non grata, ils sont tués à vue, hein, ils se trouvent dans la bande de Gaza. Alors, ces informations-là, on les reçoit quand même. Et on essaye, nous, dans nos réseaux, de les diffuser de façon à rester au jour le jour en contact avec ce qui se passe là-bas.
En droit de se poser la question de l'utilité du droit international.
Eh bien oui, mais justement, c'est ce qui manque à cet accord qui a été mis en place par Trump et Netanyahou, puisqu'il faut nommer les personnages. Hein, là, c'est une question de personne aussi. Hein. Donc, nommons-les. Ils ont conclu un accord en totale ignorance du droit international, et c'est bien pour ça que d'entrée de jeu on comprenait que cet accord n'aurait pas d'avenir. Quand je parle d'avenir, c'est un avenir pour les peuples palestiniens et israéliens, puisque l'objectif là-dedans, quand même, rappelons les choses, c'est pas de savoir qui va être le plus fort, le plus beau, c'est de faire en sorte que deux peuples vivent en paix, comme ils le souhaitent d'ailleurs. Donc, donner les moyens politiques de sortir d'une crise terrible, une crise qui relève là du droit humanitaire, une crise qui relève d'une guerre abominable et génocidaire. Mais comment on en sort ? Ben, on en sort justement en offrant des perspectives concrètes ouvertes à tous les acteurs concernés, en l'occurrence, bien entendu, les Palestiniens. Alors, première défaillance majeure de l'accord de cessez-le-feu dont on parlait, les Palestiniens n'ont pas été associés à la rédaction, ou très peu, et en tout cas aucunement en termes d'avenir politique, de représentation et de création d'un État palestinien. Donc oui, pour revenir à ta question, le droit international, il pose des jalons qui sont indispensables, qui peuvent toujours être améliorés, mais plus que jamais, c'est le droit international qui seul peut nous aider à sortir d'une situation dont on comprend combien elle est douloureuse, atroce, et donc très très difficile à... pas forcément à analyser, mais très difficile à remettre dans le sens d'un avenir commun.
Alexis, est-ce que tu veux nous dire quelque chose de plus ?
Oui, parce que le droit international doit primer par-dessus tout. Le droit international, c'est ce qui a permis au peuple, à l'ONU, de dire... après la Deuxième Guerre mondiale, que les peuples pourraient vivre en paix les uns avec les autres. Et aujourd'hui, on a affaire aux États-Unis et à Israël qui bafouent le droit international, c'est-à-dire qui ne le reconnaissent pas et qui le corrompent en permanence. L'erreur qu'il y a eu pour les accords d'Oslo, ça a été de vouloir négocier avant d'appliquer le droit international. Une négociation ne se fait que si le droit international est d'abord appliqué. Et tant que le droit international n'est pas appliqué, il ne peut pas y avoir de négociation. Ça, c'est important. À partir du moment où la colonisation, c'est un crime de guerre, il faut commencer par arrêter la colonisation. Pourquoi on n'arrête pas la colonisation ? C'est-à-dire que si on applique pas les résolutions de l'ONU, et c'est le Conseil de sécurité, vous savez, il y a 5 membres dans le Conseil de sécurité, et ils ont droit de veto. Donc à partir du moment où ils ont droit de veto, le droit international ne peut pas être appliqué. Faut savoir aussi que le droit international, c'est quelque chose qui a été créé par des empires, enfin par des États occidentaux. On peut comprendre que les autres pays du monde ne se reconnaissent pas forcément dans le droit international. Il y a des contradictions dans le droit international, parce que en 47, quand la partition a été faite, qu'on a demandé, donc on a donné 43% du territoire aux Palestiniens et le reste aux Israéliens, dont acte, il y a eu la guerre de 67, et en 67, il y a eu la fameuse ligne verte qui a été créée, parce que Israël a repris des territoires aux Palestiniens. Et donc ça, c'est redevenu une résolution de l'ONU. Donc, sur quelle base on se pose ? Est-ce qu'on se base sur 47 avec les 43% du territoire ? Ou est-ce qu'on entérine les 67% les territoires qui ont été pris en 67 ? Donc là, il y a des contradictions aussi dans le droit international. Il y a des choses à revoir. C'est compliqué, mais en même temps, comme disait Barbara tout à l'heure, il n'y a que le droit international. Parce que si on enlève le droit international, on arrive à la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, avec la proposition d'accord de paix de Trump, qui est une supercherie mondiale à laquelle on ne comprend pas pourquoi les États européens ne réagissent pas et pourquoi la France ne réagit pas.
دبوس في الضوء
Le conseil de la paix que Trump veut lancer avec des conditions qu'on peut qualifier d'hallucinantes, où du coup il a fait une invitation à quoi, 90 États, je crois, sur les 194 États du monde. Il faudrait payer 1 million cash pour pouvoir avoir un statut de membre permanent. Et Trump aurait un droit de veto. Bon, on est complètement en dehors de toute notion de droit international. Là, on atteint quand même des sommets. Mais ce qui m'interroge, c'est que font les Européens et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est dans un attentisme aussi désespérant à mes yeux?
C'est une question qu'on se pose effectivement. Par rapport à l'Europe, on est sur un accord d'association avec Israël, par exemple, qu'on demande à ce que l'Europe fasse la rupture, parce que cet accord d'association prend en compte le fait que Israël bafoue les droits de l'homme en permanence, et que dans l'article en 98 du traité de Rome, les droits de l'homme sont une des clauses qui font que on ne peut pas accepter qu'un pays soit soutenu par l'Europe s'il ne respecte pas les droits de l'homme. Là, c'est une des clauses de dénonciation de cet accord d'association. Donc c'est une des premières choses pour lesquelles on se bat et qu'on revendique très fort pour que l'Europe cesse cet accord d'association avec Israël.
Mais même ça, on n'y parvient pas.
On y arrive. De plus en plus, la pression est forte. On a une action qui s'appelle BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Ça, c'est une action qui a été lancée par un groupe national palestinien, et c'est un mouvement mondial qui concerne tous les citoyens. Et c'est intéressant parce que c'est une action que chacun d'entre nous, on peut faire directement dans son entourage. Boycott, ça veut dire qu'on boycotte les produits israéliens qui viennent des colonies. Donc on demande à ce que chaque citoyen soit vigilant pour vérifier que les produits qui viennent d'Israël ne soient pas des produits qui viennent des colonies. Donc il s'agit simplement de vérifier sur les étiquettes et de faire le boycott de ces produits-là.
Et c'est vraiment efficace?
Oui, c'est vraiment efficace parce que aujourd'hui, Israël se rend compte qu'ils ont par exemple toute une production. J'entendais l'autre jour des producteurs israéliens qui disaient qu'ils sont obligés de détruire une grande partie de leur production d'oranges parce que le boycott a pris une extension et maintenant ce sont tous les produits israéliens qui sont boycottés. Pareil pour les avocats. Il y a de plus en plus d'avocats qui ne viennent plus sur le marché européen. Donc Israël est en difficulté de ce côté-là.
Alors j'en reviens juste sur une petite chose que tu as dite, Nathalène, tout à l'heure. Ce n'est pas 1 million de dollars, mais 1 milliard de dollars qu'il faut déverser pour pouvoir siéger en permanence au Conseil de la paix.
Est-ce que tu peux nous parler de la loi Yadan qui, je crois, va bientôt passer en France ?
Alors, elle va être présentée, en effet, à l'Assemblée nationale dans quelques jours. Alors voilà, ça fait partie des combats qu'on doit mener, pour le coup, pas à l'échelle européenne, mais nationale. Quel type de combat ? On a parlé de lutte pour les droits des Palestiniens, qui correspondent d'ailleurs aussi à une lutte pour le droit des Israéliens à vivre en paix, les deux étant totalement interdépendants. Mais il y a aussi une lutte offensive à mener contre les relais de la politique israélienne en France. Et en l'occurrence, la proposition de loi Yadan s'inscrit totalement dans un soutien à une normalisation de la politique israélienne coloniale. Alors, en deux mots, cette loi qui part d'un constat très malheureux de hausse des actes antisémites, incontestable, contre laquelle il faut absolument lutter, propose des moyens de lutte qui vont totalement à l'encontre du résultat souhaité. Pourquoi ? D'abord, cette loi définit une sorte, explicitement, un antisémitisme géopolitique. Donc elle ramène l'antisémitisme à quelque chose qui se passe en Palestine. C'est pas radicalement faux, mais ça n'est pas non plus toute la vérité, premièrement. Et au-delà de ramener cet antisémitisme au conflit qui se déroule autour de la Palestine, la loi Yadan a pour objectif de faire en sorte que toute critique de ce que fait Israël aux Palestiniens, toute mise en contextualisation de ce qui se déroule depuis 2 ans et bien avant, serait assimilée à des propos antisémites. Voilà, c'était énorme, c'était terriblement grossier, mais malheureusement, c'est une proposition de loi qui revient à créer des délits ou à approfondir des délits et à assimiler tout ce qui remettrait en cause la politique israélienne de destruction de toute possibilité d'un État palestinien à du terrorisme et un terrorisme à connotation antisémite. Voilà, c'est un raccourci abominable qui est fait entre critique de l'action d'un gouvernement, action terroriste du Hamas qui a eu lieu le 7 octobre. Donc, en gros, si on critique ce que fait Israël, ça veut dire qu'on serait du côté du Hamas, donc du côté des terroristes et des antisémites. Enfin, voilà, il y a des amalgames abominables qui sont faites par cette loi et qui aboutiraient, si elle était adoptée, à court-circuiter tout le débat public autour du conflit israélo-palestinien. Comme on le sait, quand on empêche l'expression, le droit à l'expression, ça ne produit que des catastrophes et de la violence. Et notamment une violence dont nos compatriotes juifs vont se retrouver les premières victimes. Donc c'est une loi qui, d'un point de vue de la liberté d'expression, de la cohésion sociale, est épouvantable. Elle assimile toute personne juive a un soutien ferme de l'État d'Israël, de la politique israélienne, et en plus, elle met en danger les populations juives, en l'occurrence de notre pays, puisque elle les fait porte-parole d'une politique inacceptable de déni des droits des Palestiniens.
Alors je précise que donc la proposition de loi Yadan n'a pas encore été adoptée par le Parlement, bien qu'elle ait franchi quand même une étape importante, c'est que le texte est adopté en commission le 20 janvier.
Voilà, elle n'a pas pu être traitée il y a 2 jours, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, à minuit il était trop tard, donc elle a été reportée pour début avril je crois. Mais il faut rester très très vigilant, Donc il faut rester mobilisé. Et le jour où on saura que la loi va être débattue, mobiliser nos députés pour qu'ils siègent et qu'ils soient présents pour éviter qu'elle passe en douce, quoi. Hein ? Je voudrais simplement rajouter que Elie Barnavi, qui est l'ancien ambassadeur de France pour Israël, a dit lui-même, c'était au mois de juin l'année dernière, mais c'est toujours valable aujourd'hui, qu'il avait honte de ce gouvernement. Et il termine son propos en disant qu'il envisage une guerre civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux peuples qui ne parlent pas la même langue, le même hébreu, à l'intérieur d'Israël, et qu'il y a une explosion de la société israélienne en devenir. Justement parce qu'il y a ces extrémistes sionistes, colons, millénaristes, qui sont partis dans un mouvement complètement de folie pour faire un grand Israël. Et puis, d'un autre côté, il y a une société civile qui se rend bien compte que ça ne peut pas durer. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il y a une émigration de plus en plus forte d'Israéliens qui quittent Israël parce que c'est devenu invivable en Israël. Donc on est aussi dans ce paradoxe et dans cette situation où on peut imaginer, dans un avenir à moyen ou long terme, d'explosion d'Israël.
Alors revenons sur les actions, on a parlé tout à l'heure du boycott. Est-ce que tu peux quand même aussi nous dire un petit peu quels sont les produits justement qu'il faut boycotter chez nous si nos auditeurs ont envie d'agir ?
Alors bien sûr, les deux grands axes de lutte qu'on mène en ce moment, c'est Carrefour. Le président Alexandre Bompard a été alerté, on fait des pétitions, on lui envoie systématiquement des milliers de signatures et de pétitions, parce que Carrefour a distribué des sacs au moment du début de la guerre de Gaza avec l'effigie de Carrefour aux soldats israéliens. Ils ont ouvert aussi des magasins dans les territoires occupés. On nous a dit après, oui, mais l'enseigne Carrefour n'est plus affichée, sauf que, je ne sais plus bien le nom, c'est Ayerdot, c'est une succursale de Carrefour qui a pris le nom en hébreu, mais c'est Carrefour qui distribue et on trouve aussi les produits Carrefour à l'intérieur des colonies. Donc on demande à ce que Carrefour se retire des colonies. Pour l'instant, ce n'est pas encore le fait, mais on continue la lutte. Et c'est pareil pour la BNP qui fait partie des entreprises qui soutiennent Israël et qui envoient de l'argent en Israël. Alors il y en a beaucoup d'autres, hein. On a toute une liste. Si vous voulez avoir la liste par les auditeurs et aux auditrices, vous tapez AFPS 44, vous allez sur le site de la FPS et vous avez la liste de toutes les entreprises à boycotter.
Et quelles sont les autres actions menées par la FPS ?
Ah oui, alors nous, la FPS, on est très engagés avec nos partenaires en Palestine, en Cisjordanie, tout particulièrement avec le camp de réfugiés de Jenin, le camp de réfugiés qui a été vidé de sa population parce qu'il y avait 20 000 habitants et aujourd'hui les 20 000 habitants, ils ont été obligés de retrouver refuge soit dans la ville de Jenin, soit autour dans la campagne de Jenin. Et il y avait à l'intérieur de ce camp de réfugiés ce qu'on appelait la maison chaleureuse. Et la maison chaleureuse, c'était un endroit où les femmes et les enfants, dont de certains handicapés, souvent des femmes qui avaient perdu leur mari ou le mari était prisonnier, venaient pour se ressourcer, pour se reconstruire psychologiquement. Donc cette maison chaleureuse, elle a retrouvé une existence, d'abord dans un appartement, puis maintenant dans une nouvelle maison. Et on aide beaucoup cette maison chaleureuse pour que justement les femmes et les enfants puissent continuer à avoir du soutien scolaire ou avoir du soutien psychologique et puis faire des actions et des activités ensemble, etc. Bon, on fait aussi beaucoup d'autres actions auprès des handicapés, toujours du côté du camp de Jenin, et aussi toute une action avec le Cécifoot. Vous savez, les aveugles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas blessés, qui deviennent aveugles ou qui sont aveugles de naissance, qui jouent au foot. Et on a fait des échanges avec eux, donc on a toute une action avec le Cécifoot. Et la deuxième grande action qu'on fait, qui est nouvelle depuis 2024, c'est auprès d'une école à Gaza, qui prend en charge les enfants effectivement qui ne peuvent plus avoir de soutien scolaire, de présence à l'école, il n'y a plus d'école. Donc au départ, ils ont racheté des serres Marie Cher pour pouvoir refaire un espace pour pouvoir donner des cours. Et il y a des instituteurs et des institutrices qui donnent gratuitement des cours à des enfants de façon à ce qu'ils ne perdent pas complètement le lien avec l'école. Et normalement, cette école, elle devait se déplacer d'un endroit à l'autre. Ça n'a pas été possible à cause de la guerre. Donc maintenant, on aide une structure, toujours pareil au niveau d'une école, où les enfants peuvent venir avoir un repas par jour et où les parents aussi sont invités à venir. Donc les parents viennent et c'est une façon de reconstruire ou d'aider à reconstruire ou à faire perdurer une société qui a tout perdu, quoi. Donc là, on aide aussi. Et si des gens veulent contribuer, participer à cette aide, c'est pareil. Vous allez sur le site de la FPS 44, Association France-Palestine Solidarité, pour pouvoir abonder dans la cagnotte qui permet d'apporter de l'aide.
Et qui organise aussi régulièrement des soirées ou des concerts, hein, que ce soit sur Châteaubriant, Nantes.
Voilà, donc on organise des conférences, on organise des soirées, effectivement. Là, il y aura la semaine du cinéma, on va en parler tout à l'heure. Et on fait venir des artistes aussi pour soutenir la cause.
Mais je crois, Alexis, que tu peux en parler tout de suite de cette semaine du cinéma palestinien.
Alors, la semaine du cinéma palestinien, elle a lieu à partir de ce soir. C'est le premier soir, c'est l'ouverture ce soir au Concorde.
Alors, je me permets un petit pas de côté. Nous sommes aujourd'hui où nous enregistrons le 28 janvier, mais aujourd'hui où les auditeuristes vont écouter, nous serons le mercredi 4 février. Donc, ça aura commencé le 28 janvier, mais ça durera jusqu'au 8 février.
Absolument, donc très bien. Donc, c'est un programme, excusez-moi, c'est un programme donc, qui va du 28 janvier au 8 février. Et alors, ce que je peux mettre en exergue, c'est la soirée de clôture. Alors, et la soirée de clôture aura lieu à Capellia, à l'espace culturel Capellia de la Chapelle-sur-Erde. C'est un dimanche et c'est une après-midi très importante pour soutenir les artistes et la culture palestinienne. À 15h, il y aura un film qui s'appelle Pour l'honneur de Gaza, de Ian Alastal. Ian Alastal, c'est celui qui faisait, si vous avez vu sur Internet, les chroniques de Gaza. C'était des toutes petites chroniques. Il était, lui, habitant à Gaza. Et il y a un an, il a réussi à sortir avec ses enfants. Il en a été d'ailleurs très, très malheureux parce qu'il se sentait coupable d'avoir pu sortir avec ses enfants. Alors, il habitait d'abord à Montpellier, maintenant, il habite à Tours. Et il sera là pour témoigner ce dimanche 8 février. Il y aura le film pour l'honneur de Gaza, il dure 1h40. Après, il y aura donc un échange avec lui, un buffet offert pour tous les spectateurs. Et à 18h30, il y aura un concert avec 6 artistes de Gaza qui sont sortis aussi de Gaza dans le cadre d'un programme qui s'appelle Pause, où ils sont accueillis en France, ils sont à Angers. Et donc ces artistes, ils sont accueillis par Al-Kamanjati, hein, qui est le groupe qui les accueille. Et ces artistes-là nous font un concert exceptionnel. Moi, je l'ai vu, le concert. C'est absolument formidable. C'est à 18h30, le dimanche soir, 8 février, à la Chapelle-sur-Erde à Capellia.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Et bien voilà qui est dit et redit. Et c'est ici que s'achève notre tour d'horizon sur la situation en Palestine. Un grand merci à tous. N'oubliez pas, dans les dates à venir, donc cette semaine du cinéma dont nous venons de parler, qui s'achève le 8 février avec la journée de clôture. Donc, la principale chose à ne pas oublier. Si vous avez des questions qui restent en suspens, comme ça a été dit, n'hésitez pas à aller sur le site de l'AFPS. Si vous avez aussi des réactions, des questions ou des réponses sur la chronique, vous pouvez nous écrire à nantes@ldh-6france.org. Et d'ici notre prochaine diffusion, qui aura lieu à 18h30, le mercredi 4 mars sur les ondes de Jet FM, nous vous souhaitons de belles écoutes, toujours sur Jet, la station des droits et des libertés.